Michel Chailloux va vous raconter une histoire. Pour cela, il va s'inspirer d'une œuvre de la littérature, une œuvre du patrimoine, une œuvre connue, mais qu'il ne dévoilera pas. Ça sera votre rôle. C'est vous qui devrez nous dire de quelle œuvre il s'est inspiré pour raconter son histoire. Et les cinq premiers qui nous donneront la bonne réponse au 524-19-19 recevront chacun, cette semaine, 10 titres de la collection Folio Gallimard. Alors tous...
Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de soir, bien que nous soyons le matin. Voilà, ça se passe en Bretagne. Dans un coin de la Bretagne assez ignoré par les chaos du siècle dernier. Nous sommes en août, l'été rayonne dans les champs. Nous apercevons une ville. Cette ville est entourée d'une muraille épaisse, fortifiée comme le sont les murailles de châteaux forts, vous voyez. Il y a une longue promenade plantée de peupliers et d'ormes. Des maisons qui sont comme des personnages avec un mélange de bois, de pierre. Le bois est à moitié pourri, mais la pierre s'en satisfait. Si vous vous promenez dans les ruelles, n'oubliez pas que nous sommes en 1820 ou... Non, nous sommes en 1836. Si vous vous promenez dans les ruelles, ça fait comme un événement, tellement les voyageurs sont rares. On dit que les gars de l'administration, ils empruntent toujours le chemin de terre. Mais les voyageurs, eux, ils empruntent la Loire. Car si vous franchissez la poterne, le pont-levis qu'on ne lève plus d'ailleurs, vous pouvez atteindre n'importe quelle ville, y compris Savenay ou Nantes, ou Saint-Nazaire, qui à cette époque n'est qu'un simple bourg. Est-ce que je vous ai dit que la campagne était pleine de fleurs, d'insectes, qu'elle était merveilleuse, qu'elle semblait palpiter selon le rythme d'un cœur végétal? Eh bien, c'est fait, je vous l'ai dit. D'un autre côté, c'est un ensemble de marais où le sel est un sel. Que pourrait-il faire d'autre? Un mélange de mer, vous voyez. D'ailleurs, la ligne flottante qu'on en aperçoit au bout de l'horizon, c'est la mer, le large, le grand large qui respire, qui bat comme un grand poumon. Dans cette ville, dont je vous tais le nom, c'est le jeu, dans cette ville, auprès de l'église, au bout d'une ruelle humide, vous savez, ces ruelles qui fabriquent tellement d'humidité qu'on a l'impression qu'elle fabriquerait elle-même une ruelle. Bien au bout de cette ruelle, il y a un portail de chêne. On a l'impression qu'on a enlevé l'écorce de tous les chênes des environs pour fabriquer cette porte épaisse qui d'ailleurs est entrebâillée. On découvre une cour assez vaste. À gauche, il y a les écuries. Et puis à droite, un perron à double rampe. Oui, je me souviens, il y a double rampe. Ça peut vous aider à trouver le titre de l'œuvre qui est ici masqué. Et entre les pierres, il y a des, comme toujours, de la végétation qui pousse, qui disjoint les pierres, qui semblerait faire éclater à la fois l'histoire que je vous raconte et la maison dont je parle. On atteint une salle, une grande salle qui est sillonnée et parcourue par le soleil, et qui est entièrement tapissé de cuir de cordoue rouge. C'est un beau sujet d'horreur. Et au fond de la pièce, il y a une porte qui donne sur un jardin. Et puis à côté de la salle, il y a une salle à manger, où il y a deux dressoirs où étincelle de la vaisselle, quoi. Et il y a des pots d'étain, des pots en grès, toutes sortes de choses. Ces dressoirs, entièrement astiqués par Mariotte. Alors, je peux vous donner le nom du domestique. Les domestiques, on les oublie toujours. Par Mariotte, la cuisinière. Et puis, il y a aussi Gasselin qui est en train de remuer dans les écuries. Il est en train de donner la pâtée aux chiens. Il y a deux chiens qui aboient et il y a deux chevaux qui hennissent et qui donnent des coups de pied. Alors, le reste de la maisonnée, ben, il se compose... D'abord, dans la maison, il y a encore un autre étage au-dessus. Et puis, les chambres sous le grenier où on loge toujours les invités quand il y en a. Hein. Mais c'est assez rare, les invités, dans cette maison. Donc le reste de la maisonnée se compose d'un vieux baron, d'une jeune baronne de 41 ans. À l'époque, on l'a trouvée assez vieille, mais enfin, elle est toujours très belle. Je peux vous dire son prénom, elle s'appelle Fanny. De la sœur aînée du baron, qui est aveugle et qui tricote sans arrêt. On a l'impression qu'elle tricote vraiment sa vie. Elle est d'ailleurs sur le point de mourir. Elle est octogénaire. Et puis d'un jeune homme qui, pour l'heure, est absent. On le dit... envahi par un grand amour pour une femme de l'âge de sa mère qui habite de l'autre côté des marais. Il revient avec sa passion frottée dans le sel tous les soirs. Mais ce soir, il n'est pas encore rentré. Il faut dire, il est que 6 heures. Et autour de cette table, d'une table rouge qui est éclairée par une lampe à huile, se trouve donc le baron qui dodoline la tête du côté du jardin. La baronne, occupée à un vague travail de tapisserie. La sœur aînée du baron qui tricote, comme je vous l'ai dit. Et ils attendent leurs invités comme tous les soirs. Le premier arrive, c'est une vieille demoiselle, une voisine, une presque parente. On compte marier le fils de la maison, qui est très beau, avec une nièce de cette dame, qui n'est pas mariée, mais qui a une sœur, laquelle a des filles. Et cette vieille demoiselle arrive précédée de sa canne à bec. J'entends le bruit de la canne à bec et c'est un bruit reconnaissable, c'est un bruit qui était très à la mode au commencement du règne de Marie-Antoinette, je vous le certifie. Ensuite arrive le curé, oh, je me suis encore trompé, c'est le curé qui arrive le premier. C'est un homme replet, qui a des souliers à boucles d'argent, qui ne déteste pas la plaisanterie, c'est le confident de la baronne. Il est très inquiet lui aussi à propos de l'amour que porte le fils de la maison à cette femme d'un âge de la quarantaine qui habite de l'autre côté des marais. Enfin arrive le chevalier, ancien officier de marine, qui est à la retraite, qui a connu tous les déboires, la fortune de mer, mais qui jouit d'une petite santé, quoi qu'il soit d'une force herculéenne, qui a l'aspect d'une fille, mais qui a des ressorts extraordinairement tendus dans les muscles, et qui va venir vous entretenir de son petit gilet de flanelle et qui va se mêler au commérage de la soirée. Que font tous ces gens? Ils jouent aux cartes et à un jeu auquel je n'ai rien compris, la mouche. On sort des petits jetons d'ivoire et on les distribue avec des cartes. Ça m'a semblé vraiment quelque chose d'assez extravagant. Donc la soirée se passe en papotage, en remuement de cartes, en paroles plus ou moins échangées. Le baron joue, dodoline, dort, se réveille, joue. La baronne médite, elle semble vraiment très préoccupée. On comprend l'objet de sa préoccupation, c'est son fils. Et puis la soirée peu à peu disparaît. Ça languit. Les invités se retirent, il est assez tard, 9h, pensez donc, 10h, pensez donc, 11h. Tout le monde s'en va, on entend les pas qui décroissent, chacun est précédé d'une petite lanterne qu'il porte, un falot. Et tout s'éteint dans la ville, sauf la baronne qui reste parler avec le curé dans la grande salle maintenant déserte. Le baron est parti se coucher, sa sœur dort déjà depuis très longtemps, s'est-elle réveillée dans sa vie? Ils parlent et ils s'entretiennent de ce jeune homme qui n'est pas encore rentré. Va-t-il, pour la première fois, passer la nuit dehors? Le curé se retire. La baronne soupire, se met à la tapisserie, soupire, tisse son soupir. Attends, écoute. Des pas juvéniles retentissent sous le porche. C'est son fils. Elle se lève, se précipite. Il ouvre. Elle lui ouvre, plutôt. « Comment, dit-il, maman, pourquoi ouvres-tu? J'ai mon passe-partout. J'ai même un briquet pour voir mon passe-partout. » Elle lui fait de doux reproches. La conversation s'engage. Il finira par lui dire qu'il est amoureux de cette femme. Mais que cette femme le repousse depuis 18 mois. Et que c'est un amour blessé qui rentre à la maison ce soir. Le jeune homme est très beau, il est blond, des yeux noirs. L'aspect d'une fille aussi. Mais des muscles herculéens. Il se couche, tout s'endort. Demain, il se réveillera et son cœur bondira dans les marais, à l'approche de la maison dont il est amoureux. C'est le début d'un magnifique roman d'un écrivain du 19e siècle.